France Inter.
Il est 23h, vous écoutez France Inter. Tout de suite, le journal avec Alexandra Dubouchereau. Bonsoir Alexandra.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Et à la une ce soir, Joe Biden qui devrait ordonner à l'armée américaine de construire un port dans la bande de Gaza pour acheminer plus d'aide humanitaire. En France, la classe politique dénonce un Emmanuel Macron va-t-en-guerre après une réunion sur l'Ukraine à l'Élysée. Nicole Belloubet fait marche arrière sur les groupes de niveau au collège. Deux nouvelles usines de recyclage du combustible nucléaire à l'étude à La Hague. Et puis on s'intéressera à l'intelligence artificielle générative accusée de sexisme.
France Inter.
Après les largages de colis repas par les airs, les États-Unis vont donc passer par la mer pour acheminer plus d'aide humanitaire dans la bande de Gaza, assiégée et menacée de famine. Le président Joe Biden devrait en faire l'annonce ce soir lors de son discours de l'Union, Sébastien Paour.
Ce n'est pas un débarquement, mais ça y ressemble un peu. Joe Biden devrait confirmer ce soir au Congrès qu'il a ordonné à l'armée américaine de construire un port à Gaza. Une mission d'urgence pour permettre de faire parvenir plus d'aide humanitaire tous les jours dans l'enclave palestinienne. Ce port comportera un quai temporaire qui permettra à de gros navires d'accoster et de décharger chaque jour l'équivalent de centaines de camions, de la nourriture, de l'eau, des médicaments et des abris temporaires. On ne sait pas quand ce port sera opérationnel, probablement dans plusieurs semaines. Il faut encore en terminer la planification et l'exécution, disent les responsables américains. Mais ils expliquent que les moyens humains sont en partie déjà dans la région et que les premières livraisons passeront par Chypre. Ce projet n'implique pas la présence de troupes américaines à Gaza, précisent plusieurs sources ici. Mais il sera plus efficace que les largages d'aide par avion entamés il y a une semaine avec la Jordanie. Le troisième a eu lieu aujourd'hui. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
La guerre à Gaza qui est entrée aujourd'hui dans son sixième mois. Les pourparlers pour une trêve se poursuivent au Caire en l'absence du Hamas et d'Israël. Haïti s'enfonce dans la crise. Le port de la capitale, Port-au-Prince, annonce suspendre son activité face à la recrudescence de la violence des gangs armés. Ces derniers jours, les autorités ont prolongé l'état d'urgence d'un mois. Le président Zelensky est attendu demain à Istanbul, en Turquie. Il sera reçu par son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan. D'après la présidence turque, les deux hommes vont parler du front, de la paix et de la relance d'un corridor sécurisé en mer Noire. L'Ukraine qui sera aussi au cœur de deux jours de débat la semaine prochaine au Parlement français. On peut d'ailleurs avoir un avant-goût de ce qui va se dire puisqu'Emmanuel Macron a reçu aujourd'hui les chefs de parti à l'Élysée, plus de deux heures de réunion et à la sortie, Simon Le Baron, l'image d'un président va-t-en-guerre.
Parce que tous ont retenu deux mots, aucune limite. Face à un ennemi qui ne se met aucune limite, nous ne pouvons pas nous permettre d'en formuler. Voilà ce que dit le président à la sortie. Effectivement, unanimité pour dénoncer des propos dangereux, que ce soit à droite et à l'extrême droite, Éric Ciotti et Jordan Bardella.
J'ai dit que cette position me paraissait inappropriée, voire irresponsable.
Je pense qu'on peut envisager beaucoup de solutions, mais en tout cas pas celle de plonger dans la guerre mondiale.
Ou à gauche et chez les écologistes, Manuel Bompard, Marine Tondelier, Olivier Faure et Fabien Roussel.
Je suis arrivé inquiet et je suis ressorti plus inquiet encore.
À ce petit jeu de l'escalade entre des pays qui ont l'arme nucléaire, ça peut aller très loin.
Il y avait un caractère très contre-productif à ces déclarations.
Et je trouve ça extrêmement grave et extrêmement dangereux.
L'Élysée a vu ses critiques et la polémique monter tout l'après-midi au point que les conseillers du président rappellent ce soir les journalistes pour assurer qu'il n'y a aucune escalade, que la position du chef de l'État est celle d'une réponse proportionnée au regard d'un durcissement russe. Et pour dénoncer, au passage, une incohérence des oppositions, si elles affirment que le soutien à l'Ukraine doit être indéfectible, alors c'est bien qu'il faut tout faire et ne rien exclure pour que la Russie ne gagne pas. Voilà bien ce qu'espère Emmanuel Macron, mettre ses adversaires en difficulté en les forçant à se positionner par rapport à lui. Et c'est dans cet esprit que le chef de l'État et son gouvernement aborderont le débat et le vote qui auront lieu mardi à l'Assemblée et mercredi au Sénat.
Simon Le Baron, la Russie n'a plus de ligne rouge pour la France, écrit sur X l'ancien président russe Dimitri Medvedev. Emmanuel Macron qui va sceller demain la loi constitutionnelle du 8 mars 2024, la liberté garantie du recours à l'IVG votée lundi en Congrès. Cérémonie publique à midi au ministère de la Justice à Paris. Paris et selon nos informations, le chef de l'État rendra hommage à 10 femmes qui ont contribué par leur combat à cette loi constitutionnelle, notamment Françoise Giroud, Gisèle Halimi ou encore Simone de Beauvoir et Simone Veil. Elle se défend de toute inflexion et préfère parler de souplesse. La ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, a annoncé aujourd'hui un assouplissement dans la mise en place des groupes de niveau en français et en mathématiques l'an prochain au collège. La réforme annoncée par son prédécesseur, Gabriel Attal, avait suscité la colère des syndicats. Là, les chefs d'établissement auront plus de latitude, mais il reste encore beaucoup de questions et d'inquiétudes pour Isabelle Henry. Elle est vice-présidente de l'Association pour l'enseignement du français.
On ne peut que se satisfaire de ce recul, parce que c'en est un véritablement. Maintenant, dire que ce ne sont plus des groupes de niveau, que ce sont des groupes, ça reste quand même très très vague, parce que ça dépendra vraiment des organisations que les établissements pourront proposer, visiblement, puisque c'est eux qui vont décider. Donc il n'est pas du tout certain qu'on puisse mettre en place des groupes qui soient des effectifs intéressants pour que les élèves puissent réellement progresser, parce que voilà, on a bien conscience que c'est ça le but en fait, hein, c'est que les élèves progressent. Si c'est pour avoir des groupes qui sont à 30, parce qu'on n'a pas les moyens de faire mieux, ça ne change rien et autant rester en classe entière. Et ça, on n'a pas du tout la garantie qu'il y aura une autre organisation possible que celle-ci. Donc voilà, pour l'instant, on se réjouit du recul, mais enfin, à titre personnel, je ne me réjouis pas complètement de l'annonce parce que je ne suis pas sûre qu'au final, ça donne une grosse différence.
Une réaction recueillie par Sonia Princet, spécialiste éducation à France Inter. Après 4 heures de blocage, le barrage agricole de l'A63 est levé ce soir au niveau du péage de Biriatou à la frontière espagnole. C'était une action conjointe des agriculteurs espagnols et français contre la taxation pour l'achat de GNR ou d'électricité. Deux nouvelles usines pour la Hague dans la Manche. Deux usines de traitement et de recyclage sont à l'étude sur le site historique d'Orano. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui sur place le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Traitement et recyclage des déchets nucléaires. Et l'annonce est diversement accueillie, Jacqueline Fardel.
Deux nouvelles usines envisagées en pleine polémique sur le projet d'EDF d'une piscine d'entreposage supplémentaire sur le site de La Hague. Nicolas Maes, le délégué général d'Orano, balaie les réticences.
Ce que nous ressentons, c'est qu'il y a un niveau d'adhésion et d'enthousiasme pour ces nouveaux programmes. Ce qu'on va poursuivre et continuer à faire, c'est de travailler dans cet esprit de dialogue, et comme nous l'avons fait, en fait depuis le démarrage de l'usine et comme nous le faisons au quotidien aujourd'hui.
Les 5700 salariés du site, eux, respirent comme Xavier et Sylvain.
On se pose un peu de questions sur l'avenir nucléaire jusqu'à 2040. On a une vision pour peut-être une cinquantaine d'années derrière, donc très rassurant.
Ouais. C'est une très grande nouvelle pour la filière recyclage, c'est parfait.
Prolonger l'activité avec à la clé des embauches, encore faut-il trouver la main-d'œuvre. Question de ministre.
Vous avez du mal à recruter ou...
Alors aujourd'hui, depuis quelques mois, on n'a plus de soucis de recrutement sur cet établissement.
Donc les gens ont retrouvé confiance à la filière nucléaire.
Oui, je pense, ouais.
Confiance mitigée évidemment chez les antinucléaires qui craignent eux que la Hague devienne une immense poubelle. Il y aura concertation, promet Bruno Le Maire.
Nous lançons les études qui vont nous permettre de savoir quels sont les terrains nécessaires. C'est ce qui va nous permettre d'en discuter aussi avec la population.
Le ministre qui n'a annoncé ni calendrier ni budget précis.
Reportage France Bleu Cotentin de Jacqueline Fardel. L'intelligence artificielle générative est-elle sexiste? Oui, selon l'UNESCO. En tout cas, elle perpétue les préjugés sexistes selon une étude dévoilée aujourd'hui par l'Organisation des Nations Unies. Les précisions de Laurélie Carive.
Demander à l'intelligence artificielle d'écrire un récit sur un homme, parmi les mots qui reviennent le plus souvent, trésor, bois, mer, aventureux, décidé. Demander la même chose pour une femme, vous obtiendrez une histoire où il est question de jardin, d'amour, de cheveux et d'époux. Pour cette étude, les chercheurs ont demandé à plusieurs modèles de langage, dont ceux sur lesquels s'appuient ChatGPT et l'IA de Meta, de produire un millier de récits différents concernant quatre catégories, femmes, hommes, filles, garçons. Il apparaît nettement que l'IA attribue aux hommes des emplois d'ingénieurs, de médecins, d'enseignants, quand les femmes sont plutôt domestiques, cuisinières ou prostituées. Et ces stéréotypes ne concernent pas que le genre. Quand on demande à une IA de compléter la phrase « une personne gay est... » 3 petits points, les 2/3 des textes générés sont négatifs. Un résultat alarmant qui reflète en les amplifiant les discriminations du monde réel. Sorte de miroir statistique déformant, explique Taoufik Jelassi, sous-directeur général de l'UNESCO.
Le cœur de l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de données qu'on utilise pour entraîner des algorithmes. Les données ne sont pas représentatives, ce sont des données qui peut-être n'ont pas été vérifiées, c'est pas le monde digital qu'on souhaite avoir.
L'instance onusienne appelle donc les entreprises du secteur à s'assurer que leur modèle de langage s'appuie sur des bases saines. Elle demande aussi au gouvernement plus de régulation pour mettre en place ce qu'elle appelle une intelligence artificielle éthique.
Le football et Marseille qui a un pied en quart de finale de la Ligue Europa après sa victoire 4-0 ce soir contre Villarreal au Vélodrome en huitième de finale aller. Idem pour Lille et qui a battu les Autrichiens du Sturm Graz 3-0. Le LOSC, dont le stade Pierre-Mauroy accueillera la finale de la Coupe de France de football le 25 mai. C'est ce qu'annonce ce soir la Fédération, la météo.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques, Euromaster garantit votre mobilité et préserve votre budget.
Élodie Calac de Météo France.
Une fin de semaine agitée. Demain matin, une perturbation aura gagné le sud-ouest et le Languedoc-Roussillon où les pluies seront soutenues. L'après-midi, le temps pluvieux remontera vers la Bretagne, l'Orléanais, la Bourgogne, les Alpes avec une activité marquée du Languedoc vers la Provence, le sud des Alpes, la Côte d'Azur et la Corse. Les Cévennes seront particulièrement impactées. Ça s'éclaircira sur le sud-ouest l'après-midi, mais il y aura des averses parfois orageuses. Le vent se renforce dès cette nuit et demain sur le sud. Les rafales pourront atteindre 80 à 100 km à l'heure sur le sud-est et les Pyrénées. On trouvera du soleil de la Normandie vers les Hauts-de-France, le bassin parisien et le nord-est. Le matin, il fera 0 à 2 degrés sur le nord-est contre 8 à 11 sur le sud-ouest. Et puis l'après-midi, 11 à 15 degrés attendus jusqu'à 16 à Bayonne et 17 à Perpignan.
Merci Élodie Calac, 23h11 sur Inter.